fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h02, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info du lundi.
Et pour ce lundi, édition spéciale en quelque sorte, puisque contrairement à d'habitude, eh bien, nous allons commencer par une interview plus que d'actualité, puisque nous avons dans le studio présents aujourd'hui trois camarades kurdes qui sont membres du centre culturel de Mésopotamie, et ils vont donc aujourd'hui nous parler de ce qui se passe au Kurdistan, et plus précisément au Rojava, puisque depuis mercredi dernier, Erdogan et son armée ont entamé une très puissante offensive militaire anti-kurde. En à peine 24 heures, par exemple, 60 000 personnes ont été déplacées. Cette attaque est particulièrement violente, frontale et inacceptable. On verra dans cette interview, reviendra dans cette interview sur les détails de cette attaque, de ses conséquences et les raisons de cette intervention.
Et déjà, merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, pour commencer, d'abord et premièrement, pourquoi Erdogan et la Turquie ont décidé d'attaquer le Rojava et les Kurdes.
Özellikle ben de tüm dinleyicilerimizi selamlıyorum. Erdogan niye Orta Doğu'ya Rojava'ya saldırdı? Büyük bilinen bir şey var. Bugün Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje vardı ve Erdoğan bunun eş başkanlığını yapıyordu.
Traduction là peut-être.
Ouais. On vous salue tous et on vous remercie pour nous avoir sur cette émission. Pour commencer, on peut dire que Erdoğan, qui est le co-président de ce projet qui s'appelle le grand projet du Moyen-Orient, en fait, on peut dire que ça c'est le point de départ de tout ce qui est là en ce moment.
Kürtler, bu projeyi, proje hayalini Kürtler. Bu hayala son verdi. Bu hayala son vermeyle birlikte tekrar bu hayalin nasıl canlandırılabileceğini arayışın içine girip biliniyor ki DAEŞ Kürtler tarafından bir yeneğe uğratıldı. Ve DAEŞ ortadan neredeyse fiziki anlamda birçok alanda mücadelesine son verildi. Ama
les Kurdes ont terminé, ont annulé ce rêve de ce rêve qui s'appelle le grand projet de Moyen-Orient. Et pour faire revivre ce projet, Erdoğan a lancé cette attaque. Comme on le sait bien, les Kurdes ont vaincu le Daesh.
Ama zihniyet olarak bugün hala hem Orta Doğu'da hem dünyada kendi varlığını sürdürmekteler. Erdoğan tekrar bunu nasıl toparlar ve Orta Doğu'ya hakim kılma arayışına girip tekrar şey yapmak için işte bugün ÖSO benzeri çetelerle kurup çeteleri örgütleyip tekrar Kürtlerin üzerine sürme ve Kürt oluşumunu elinden alma araçına girmiştir.
Mais ils sont vaincus, le Daesh il a vaincu, mais par contre il survit en forme d'une mentalité, en forme d'une idéologie au Moyen-Orient et aussi dans tout le monde, dans chaque partie du monde. Erdogan voulait faire revivre, faire repousser Daesh. Et pour cela, il a soutenu la bande qui se dit l'armée libre du Syrie. Et ils les ont poussés sur les Kurdes.
Daha önceki hedef Kürtler olmasının yapılan yanlışların tekrar aynı hataya düşmesi. Tekrar hataya düşmesi ve Kürtleri kendilerinin tekrar mağlup edeceğini bile bile yine bu şeyi devam ettiriyorlar.
En fait, c'est une en fait bien qu'il sait que les Kurdes vont le vaincre encore, il était obligé d'insister sur cette faute qu'il avait déjà fait.
Burada Kürtler alternatifsiz değildir. Hem kendini koruyabilecek güçteler ve hem de Orta Doğu'da kendi varlığını sürdürebilmek için her tür arayışın içine girebilecek politikaya sahiptir.
Les Kurdes ne sont pas privés des alternatives et ils font faire renaître des autres alternatives pour garantir leur présence, leur existence sur le Moyen-Orient.
En son Amerika'nın çekilmesiyle, çekilme kararı almasıyla birlikte Kürtlerin burada sanki alternatifsizmiş gibi ortada bırakılmış gibi bir izlenim bırakıldı. Burada alternatifsiz olmadığını ortaya koydu ve mevcut sistemle tekrar ortak bir uzlaşmaya gidildi. Bu uzlaşma sınır güvenliği üzerinde ilk önce anlaşma yapıldı.
En fait, il y a cette idée que avec la décision de Trump d'abandonner le Moyen-Orient, la Syrie, il y a cette idée que les Kurdes n'ont plus d'alternative. Mais il faut savoir que on a créé des moyens pour faire survivre la révolution de Rojava.
Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut avoir là rapidement peut-être des nouvelles du front, ce qui se passe en ce moment,
où en est l'offensive?
Bugün cephede son bir haftadır bilinen ki son bir hafta yoğun bir çatışma yaşanmaktadır. Bu çatışmada her iki tarafın da kayıplar bilgisi geldiğini duyuyoruz. Hani okuyor, takip ediyoruz. Burada YPG karşısında büyük bir NATO gücü duruyor. Bu NATO gücünün bugüne kadar sarf ettiği sadece iki köy ele geçirme gibi bir durum var.
Depuis une semaine, il y a des conflits intensifs. Et deux parties ont eu des pertes, mais en fait YPG lutte contre une force de OTAN, mais par contre cette grande force de OTAN n'a pu gagner que deux villages pendant le sommet qu'on s'est passé.
Bugün karşınızdaki gücün %10'u YPG'nin elinde olsa, YPG bunun 10 katını yapabilirdi.
Si YPG avait 10% du force de l'armée turque, de cette armée de l'OTAN, il pourrait réaliser tout ce qu'il veut.
YPG kendi öz gücüne dayanarak bu cebarı sistemle sonuna kadar mücadele edeceğini kararını göstermiş ve devam edecektir.
YPG est bien déterminé de résister par ses propres moyens, par ses propres forces contre cette attaque barbare, contre cette force barbare.
Justement, vous parlez donc de, des YPG qui sont déterminés à se battre avec leurs propres forces. On a entendu récemment, et notamment hier, hein, dans les informations, qu'il y aurait une alliance avec des troupes de Bachar el-Assad. Alors qu'en est-il exactement sur le terrain ?
Az önceki soruda dile getirdiğin gibi dedim YPG alternatifsiz değildir. Mevcut Orta Doğu'da kendi projelerini yani kendi siyasetini yürütebilmek için kendince siyaseti de vardır. Neden Esad'la tekrar bir anlaşmaya gidildi? Şimdi karşılıklı çıkar gereği bir anlaşmaya gidildi. Yani bu gerçektir. Bugün YPG Orta Doğu'da varlığını sürdürebilmek için bu Esad olmasa da başka bir güç de olabilir. Orta çıkarlar gereği ulaşmaya gidilebilir. Bugün yarın İran'da olabilir. Yani önümüzdeki yıllar Türkiye'de şey olabilir. Yani bu çıkar gereği. Yani Kürtlerin varlığını şeyini kabul eden herkese ulaşmaya gidebilir yani.
Comme j'ai dit, YPG n'est privé des alternatives pour mener son propre politique, pour garantir son existence. On peut faire des alliances avec qui ce soit, à moins que les cultes soient respectées et le droit soit respecté. Au futur, on peut faire des alliances même avec la Turquie, au futur, ou bien avec l'Iran. On peut faire des alliances pour tout le monde, pour garantir la survie de notre politique.
Alors, on a un peu vu que les arguments de la Turquie, hein, qui prétend vouloir faire un corridor humanitaire pour protéger sa frontière, en fait, c'est que le prétexte à leur grand projet, comme vous disiez tout à l'heure. On peut peut-être parler d'un autre élément géopolitique qui est très important dans cette lutte et qui notamment favorise les déclarations des différents dirigeants européens et partout dans le monde des grandes puissances impérialistes, c'est la question du combat contre Daesh et notamment de la libération des otages de Daesh. On a entendu hier qu'il y en avait près de 800 qui avaient été libérés. On sait que par ailleurs, Erdogan s'est assuré le soutien de 18 000 miliciens djihadistes. On sait que les Kurdes détiennent 12 000 djihadistes au Rojava, si mes chiffres sont bons. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de ça, de ce qui s'est passé déjà et comment ça risque de se passer par la suite ?
Türkiye'nin insan koridor oluşturma gibi bir argümanı var. Buna karşılık biliyorsunuz Avrupa'da bu jeopolitik duruma dair belli karşılıklar oldu. Bunun dışında 800 Daesh'in özgür bırakılı bilgisi var. Aslında Erdoğan'ın 18 bin Daesh'liyi serbest bırakma düşüncesi olduğu söyleniyor. Ve YPG'nin de 12 bin Daesh'li var. Buna dair ne söylemek istersiniz?
Ça c'était la traduction de la question.
Özellikle bu adına barış koridoru ya da işte güvenli bölge ne diyelim bir alt takmışlar. Bu bir kere bizce bu soykırım bir koridoru olarak biz anlamlandırıyoruz. Neden işte bu Daesh'ler ya da serbest bırakıldı karşılığında. Daha doğrusu Daesh'ler serbest bırakılmadı. Oradaki güçlerin mevcut Türkiye'ye karşı savaşabilmek için birçok güç yani büyük bir gücü Türkiye'ye karşı savaşabilmek için cepheye çekildi. O boşluktan işte yeteri güvenliğini sağlanamamasından kaynaklı cezaevindekiler kaçtırdı diyebiliriz.
On parle d'un corridor de paix ou bien de cette zone de sécurité. La Turquie pose ses arguments. Mais d'après nous, ça va être qu'un corridor de génocide. En plus, en fait, les militants de Daesh sont pas libérés. En fait, vu ces menaces de l'État turc, certaines forces de YPG ont dû aller vers les frontières pour repousser cette attaque. Et à cause de ce problème de sécurité, dans certaines prisons, il y a eu certaines fuites par les militants de Daesh.
Aslında bu cezaevi karşılığı ilgili şöyle bir şey de var. Bu cezaevindeki insanların kaçmasının büyük bir arkadaşı ise Türkiye'dir. Bu kaçta birlikte onların işte YPG buna kaçarken tümünü işte öldürebileceğini ya da işte katledebileceğini düşünerek sürekli oraya havan topları işte bombardımanlar yaparak onların kaçmasını önünü açmış ve YPG'nin onları öldürmesi için bir nevi teşvik yol vermiş oldu. Ve YPG ne yaptı burada? Tam tersi. Onu hiçbirini öldürmedi. Ve dünya kamuoyuna da bu şekilde kendi insancıl bir hareket olduğunu tekrar ortaya koymuş oldu.
En fait, la Turquie, l'Atatürk pensait que le YPG allait tuer ceux qui essayaient de fuir les prisons. Et pour cela, ils ont bombardé autour des prisons. Mais YPG n'a pas fait ça. Il n'a pas tué ceux qui se sont fuis ou bien il n'a pas exterminé les prisonniers. Et avec ça, il a montré encore une deuxième fois comment... en fait, ses aspects humanitaires, comment il est bien lié à ses principes humanitaires.
Oui, d'ailleurs, il y a quand même une partie des personnes qui ont fui, qui sont les 800 dont on parle, c'est en fait des proches de Daesh qui étaient dans des camps. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que les prisonniers de Daesh.
Oui, ce sont principalement des femmes et des enfants. Voilà. En l'occurrence.
Bu 800 kaçanlar içinde aslında kamplardan kaçanlar ve Daesh'lerin yakınları daha çok işte kadınlar ve çocuklar olduğu söyleniyor. Zaten.
Tabii karışıktır. Hem içinde tabii eşleri de vardır, çocukları da var. Aile olarak kaçanlar da var, ailesi olmayanlar da. Yani karışık bir gruptur. Bunlar hepsi kaçtı. Şu anda dünyayı daldılar. Yani yarın öbür gün nereye zarar vereceklerdi kimse kestiremez. Özellikle Avrupa bunu iyi düşünmesi gerekir. Bunun önüne alması gerekir. Ve desteğe özellikle KSD ve YPG güçlerine hem maddi hem manevi anlamda da büyük bir destek sağlaması gerekir.
En fait, c'est bien compliqué parce que c'est un état de guerre. Évidemment, c'est possible qu'il y ait des femmes et des enfants qui aient été fuis. Mais par contre, comme j'ai dit, c'est un état de guerre. Et surtout l'Europe devrait bien penser aux conséquences de la libération, de la fuite des militants de Daesh. Et doit fournir des soutiens au niveau de matériel ou bien au niveau... aux autres niveaux, au niveau politique, pour empêcher les conséquences graves de cette situation tendue.
Oui, parce que depuis le début, c'est quand même sur les Kurdes que retombe la responsabilité de gérer les combattants emprisonnés. Depuis le début, c'est sur les Kurdes et au Kurdistan du Rojava de gérer cette situation. Et donc là, est-ce que vous lancez une sorte d'appel à ce que international, à ce que ce soit plus uniquement sur vous que repose cette gestion des combattants djihadistes ?
Baştan beri bu Daesh'lerin tutukluluk halini bütün sorumluluk kütleri yıkıldı. Sizce uluslararası ölçekte buna dair yapılabilecek bir şey var mı? Tüm sorumluluk kütleri mi itilmeli?
Bu Daesh'lerle ilgili tabii uluslararası devletlerin, daha sonra halkların diyelim, bunların uluslararası bir mahkeme, bağımsız bir mahkeme kurup bunların yargılanması gerekir. Çünkü bunlar hem Orta Doğu nedeniyle tüm dünyaya zarar veren kişilerdir. Yani hem zarar veren şu anda fiziki anlamda değil, zihniyet anlamda da yani anlayış anlamda da zarardırlar. Çünkü millet sürekli insanı gerileten ve barbarlaştıran bir anlayışa sahiptirler.
En fait, oui, au niveau international, des États, en fait, pour le corriger, des peuples au niveau international doivent prendre responsabilité. En fait, une cour internationale doit être instaurée pour juger les militants de Daesh. C'est parce que sur le Moyen-Orient, mais aussi sur chaque point du monde, le Daesh endommage le monde, non pas juste, c'est pas bonnet au niveau matériel ou bien c'est pas bonnet aux pertes de la vie humaine, mais aussi dans un du mot de mentalité, dans une mentalité idéologique, le Daesh rend des barbares. En fait, il a cet effet négatif, cet effet fondamental sur chaque point du monde.
bugün Orta Doğu'da bu işte barbarlığın birinci destekçisi diyebiliriz. Amerika, ikincisi de Avrupa'dır. Çünkü Avrupa'da bu konuda iki yüzlü bir siyaset yürütmektedir. Yani devlet nezdinden diyorum. Yani toplum her zaman bağımsızdır. Bu iki yüzlü siyasetlerin cezasını halklar ödüyor şu anda. Avrupa'da halklar ödüyor. Sivil halk ödüyor. Bugün tüm saldırılar sivil halklara oluyor. Arabayla, bıçakla, silahla her gün görüyoruz yani. Medya takip edebiliyoruz. Avrupa, yani Almanya'sa tut, Fransa'nın tut, İsveç'in tut, her yerinde şu anda daha önce saldırılar olmuştu.
Aujourd'hui, le garanteur des attentats, en fait, aujourd'hui, le garanteur principal de Daesh pourrait être dit que c'est les États-Unis, mais aussi l'Europe. En fait, l'Europe mène une politique hypocrite sur ce sujet. Et les conséquences de cette politique hypocrite se pèsent sur les peuples, y compris les peuples européens. Il y a eu, comme vous le savez, il y a eu des attentats dans chaque point de l'Europe, avec des couteaux, qui soient avec des couteaux ou bien qui soient avec des bombes ou bien avec des autres moyens. C'est toujours les peuples civils qui sont face à ces menaces violentes.
Justement, peut-être pour conclure, en tant que militant internationaliste aussi, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il y a eu pas mal de manifestations partout en France. Il y en a eu une grosse ce samedi à Lyon qui a un petit peu mobilisé. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, depuis ici, pour soutenir les Kurdes dans leur combat, pour soutenir le Rojava?
Internasyonistler olarak biz neler yapabiliriz? Geçtiğimiz cumartesi bir eylem oldu Lyon'da ve ilerleyen süreçte neler yapacağız?
Daha önce Rojava'da, yani Rojava'daki arkadaşların açıklaması var. Özellikle Avrupa halkından ve internasyonist güçlerden bir isteği vardı. Avrupa alanının sadece manevi anlamda değil, maddi anlamda da Avrupa tüm devrimci demokrat güçlerin bu zihniyete karşı durulması ve ciddi anlamda karşı durulması, böyle pasif değil. Yani ciddi anlamda karşı durulduğu da bugün Rojava buranın güvencesidir. Rojava giderse burası da aynı şekilde. Yarın bir gün karışabilir.
En fait, il y a eu un communiqué de Rojava qui s'adresse aux internationalistes, au peuple de l'Europe. En fait, avec dans cette communiqué, on faisait appel à créer à lever son voix pour résister, pour repousser cette attaque. Et non pas il faut pas se limiter dans une résistance passive, parce que Rojava garantit la sûreté de l'Europe aussi. Rojava garantit la sûreté des peuples européens aussi.
Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour terminer, parce qu'on...
Et des rendez-vous à donner sur Lyon, par exemple?
Sûrement sur Lyon.
Ce samedi, il y aura encore une autre manifestation.
Eylemlerimiz her hafta cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Gerekli bilgi, daha geniş bilgi, çarşamba gününden itibaren Rebellion adresinden biz arkadaşlara sunacağız.
On a compris, je crois, Rebellion.
En fait, on planifie à faire des manifestations chaque samedi. Et une annonce plus détaillée va être présente sur le site Rebellion à partir de mercredi.
Benim burada eklemek istediğim bir şey var. Buradaki arkadaşlar, Avrupa'daki ve diğer arkadaşlar bir şeyler yapmak istiyorlarsa Serikaniye'den gelen son mesajı okusunlar ve dinlesinler. O arkadaş gerekli mesajı hepimize iletmiştir.
Moi je veux ajouter aussi quelque chose pour nos amis, pour nos camarades internationalistes. Il y a eu un message de Serikaniye. Je vous conseille vivement de lire ce message qui est venu de Serikaniye.
O arkadaş bize her şeyi bildirmiştir.
Mesaj şuydu.
Cet ami nous a annoncé tout.
Türkiye, evet, bizden habersiz Rojava'ya girmiştir ama çıkarken bizden habersiz çıkamayacaktır.
Cet message disait que oui, la Turquie a entré la Rojava sans nous demander, mais il ne pourra pas partir sans nous demander.
Ben internasyonalist arkadaşım mesajını da size ileteyim. arkadaşlar, devletler bizim yaşamımız için gerekeni yapmıyorsa bizler halk olarak gerekeni yapmasını veririz demiştir.
Dans cette message, il disait que si les États pas, si les États vont pas faire pour garantir notre sûreté, on sait bien ce qu'il faut faire pour la sécurité de nos peuples, pour garantir la liberté et la sécurité de nos peuples.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu. On a une grosse pensée à tous les combattants qui, et combattantes qui aujourd'hui sont en train de se battre contre le fasciste kurde turc, pardon, le lapsus Erdogan. Vous avez choisi une petite chanson pour terminer l'interview. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette chanson.
Bu arkadaşların Rojava direnişi, bu son Türkiye'nin saldırısıyla başlayan saldırıya karşı arkadaşların son olarak yapmış olduğu bir direniş şarkısıdır. Gerçekten çok güzeldir. Hepiniz dinleyin. Eminim seveceksiniz.
C'est une chanson fait par les soins des camarades à Rojava. Elle s'appelle évidemment de la résistance de Rojava. On espère que vous allez bien apprécier.
Eh ben merci beaucoup. Elle s'appelle comment cette chanson?
Le nom?
Chervano.
Chervano.
Chervano. Allez, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Voilà.
Şervanu, şervanu, şervanu, şervanu, çelengo ez gorite, dilke yari barate, tefengli ser milanu, şervanu, şervanu, şervanu, şervanu, şervanu. شربانو شربانو شربانو شربانو گرکتین برخانو لونی بده سنگانو لزو بس که حیرانو شربانو شربانو شربانو شربانو شربانو شربانو دریا دوستی دزانو کس کسوران عزمانو یان چک کادش من منو شروانو شروانو شروانو شروانو یار یادوست دزانو کس کسوران عزمانو یان چک کادش من منو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو
Bonjour, bonjour. Vous n'êtes pas du tout pris au dépourvu.
Toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on va reprendre le cours d'une émission normale en passant tout de suite au titre déjà.
Les titres, alors les titres, eh bien, à l'international, on va commencer donc par un point sur le soulèvement en Irak. Ensuite, on ira du côté de Hong Kong et puis de l'Équateur, une insurrection victorieuse serait en cours. Et on terminera donc l'international par un point sur la Tunisie. Et celui-là, je ne sais pas de quoi il parle. Donc
sur la crise qui s'annonce.
La crise qui s'annonce,
très bien. La crise qui vient même.
Au national, on enchaînera donc avec un point sur un membre du Rassemblement national. Alors, à Dijon.
Pas tout à fait, hein. C'est une anecdote, mais non, c'est plus sur le concept de société de vigilance que nous a vendu Macron la semaine dernière.
Très bien. Et donc on finira le national avec la semaine d'action de, d'extinction rébellion. Et au local, on fera un point sur la grève à Fezin et sur le petit paumé.
Mais avant tout ça, on va commencer par la punchline de la semaine. Alors, tambour. Et donc, c'est en France, si vous êtes riche et patron, vous n'êtes pas défendu par votre pays. Alors, qui a dit ça?
Moi, je sais.
Il y en a qui savent, donc bon.
Ah. Bah, moi, je sais pas.
Alors, c'est la femme d'un mec qui a été emprisonné au Japon, mais un grand patron français.
C'est Carole Ghosn, l'épouse de Carlos Ghosn, qui donc dans le JDD ce dimanche se plaignait d'avoir eu aucun retour du président de la République. Preuve selon elle que le pays a oublié tout ce que Carlos a fait pour l'économie française et pour Renault. Le message envoyé, c'est que en France, si vous êtes riche et patron, vous n'êtes pas défendu par votre pays. Merci Carole. Terminé. Bonsoir.
Et donc, on commence avec nos sujets internationaux.
Et on commence avec l'Irak, visiblement. Hein,
tout
c'est
à
ça
fait.
Ouais, merci bien. Alors, donc, en Irak, effectivement, la situation est sans précédent depuis 2003. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines s'apparente à un début d'insurrection. L'actuel pouvoir irakien mis en place après l'intervention américaine de 2003 est un pouvoir à majorité chiite, autoritaire, corrompu, ethno-sectaire, c'est-à-dire qu'il réprime systématiquement les minorités religieuses et en particulier les sunnites. Et ce pouvoir applique depuis 2003 des politiques économiques ultra-libérales. C'était d'ailleurs l'un des enjeux de l'intervention américaine. Pour en savoir un peu plus, je vous conseille de lire ou de regarder la stratégie du choc de Naomi Klein. Au-delà même donc du pétrole, hein, c'était donc l'application de politiques ultra-libérales. On peut également noter que c'est suite à cette intervention américaine que les cadres sunnites de l'armée de Saddam Hussein sont devenus les cadres de Daesh en Irak, hein, ce qui fait lien avec le sujet précédent. Depuis le 1er octobre, la population manifeste et le pouvoir réprime violemment. Alors la population manifeste contre la corruption, le chômage et l'état lamentable des services publics. Un jeune sur deux est au chômage dans plusieurs zones du pays, l'accès à l'eau et l'électricité sont difficiles, idem pour les soins et pour l'éducation. Alors qu'en face, les hommes d'affaires et les politiciens, soutenus par les Occidentaux, s'en foutent plein les poches. En Irak, les partis ayant des élus au Parlement ne sont pas uniquement des organisations politiques. Du fait de leur contrôle sur l'administration et les revenus de l'État, ils sont devenus des puissances économiques. Tous les partis, y compris le Parti communiste irakien, ont une responsabilité dans le pillage systématique des richesses du pays. Face à ce début de fronde sociale, le Premier ministre Adel Abdel Mahdi a opté pour la répression sanglante. Il y a au moins 150 morts depuis le début de la mobilisation et plus de 6000 blessés par balle, tir à balles réelles, soit par l'armée régulière, soit par le biais de milices chiites paramilitaires appuyées par l'Iran et utilisées par le pouvoir en place. Les manifestations sont majoritairement composées de jeunes individus. Au départ, il y avait des jeunes femmes dans les manifestations, mais elles sont vite devenues les cibles privilégiées de la répression. Elles qui subissent déjà beaucoup plus fortement les difficultés économiques et une discrimination politique et idéologiquement misogyne, pouvant aller jusqu'à l'asservissement. Depuis quelques jours donc, ce sont majoritairement de jeunes hommes qui font face à la répression dans la rue et proviennent essentiellement des quartiers les plus pauvres des villes. De simples manifestations pacifiques début octobre, on est passé à une situation quasi insurrectionnelle, et ce même dans le sud du pays qui est à majorité chiite. Aucun groupe ni aucun parti politique n'est actuellement capable et en mesure de représenter les masses qui manifestent aujourd'hui dans les rues, et c'est tant mieux. Le pays vit un mouvement réellement inédit, car c'est la première fois que les manifestants demandent la chute du régime sans intervention particulière extérieure, pourvu à elles et eux qu'ils y arrivent, sans récupération politique et surtout avec la mise à sac obligatoire de l'impérialisme occidental comme l'impérialisme iranien.
Et c'est une situation un petit peu similaire en Équateur, enfin en tout cas pré-insurrectionnelle du côté de l'Équateur.
Oui, oui, alors pré-insurrectionnelle, bah, disons que ça va se calmer désormais. En tout cas, pendant environ 12 jours, il y a eu un puissant mouvement de révolte contre le pouvoir en place en Équateur, qui a quand même vraiment menacé le pouvoir du président Moreno. La révolte, enfin, elle a été incroyablement forte à travers tout le pays, hein, à tel point que le gouvernement vacillant a dû déménager l'ensemble des administrations et des ministères en dehors de la capitale Quito vers la ville côtière de Guayaquil. Donc le président Moreno, il a même déclaré l'état d'urgence pour 60 jours il y a deux semaines, ce qui lui a permis de restreindre certaines libertés civiles pour tenter de rétablir l'ordre. Et samedi dernier, c'est même le couvre-feu qui a été décrété dans Quito, accompagné de la mise en place d'un contrôle militaire de l'agglomération, donc avec des militaires patrouillant dans les rues. Alors, comment on en est arrivé à une telle situation insurrectionnelle en Équateur ? Eh bien, tout a commencé avec l'annonce de plusieurs réformes économiques à application immédiate en échange d'un nouveau prêt du Fonds monétaire international d'environ 4,2 milliards de dollars. En particulier, c'est la fin des subventions pour l'essence et donc la hausse drastique des prix, hein, près de 123% d'augmentation des prix du carburant, qui a concentré la colère chez les Équatoriens. Mais on retrouve également de nombreuses autres mesures typiques des plans de restructuration néolibéraux imposés par le FMI à des pays du Sud. Donc suppression des droits de douane, assouplissement du droit du travail, durcissement du statut de fonctionnaire, baisse du salaire minimal dans le public, etc. etc. Et une fois encore, un pays d'Amérique latine est victime de l'impérialisme de la puissance économique américaine via l'éternel chantage à la dette exercé par un de ses principaux bras droits, le FMI, qui, je le rappelle, hein, est une institution qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis pour servir les intérêts américains face à l'URSS notamment. D'ailleurs, on a vu les Américains soutenir le président Moreno, hein, le secrétaire d'État Mike Pompeo, vendredi dernier, a souligné les efforts du gouvernement équatorien pour institutionnaliser les pratiques démocratiques, bon, à grand renfort de répression apparemment, et appliquer les réformes économiques nécessaires. Alors, les premiers qui ont réagi à ce diktat du FMI et avoir amorcé la mobilisation sont les indigènes, hein, qui représentent à environ 20% des 17 millions d'habitants de l'Équateur. Et parce qu'en fait, ils sont les premiers affectés. Ils constituent 70% des pauvres dans le pays. Ils travaillent principalement dans l'agriculture et donc ils voient s'envoler les coûts de transport pour l'écoulement de leurs produits avec la hausse du prix du carburant. Alors rapidement, donc, le pays s'est retrouvé paralysé par leurs nombreux barrages broutiers. La distribution du pétrole a été presque totalement stoppée par la grève et les occupations d'infrastructures pétrolières. Et à Quito, on a assisté à des quasi-scènes de guerre, hein, avec la destruction de plusieurs bâtiments publics, hein, centre des finances ou des grandes chaînes d'info nationales, et des forces de l'ordre tirant à balles réelles sur les manifestants. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, le bilan est déjà est très lourd. Hein. On compte 7 morts, 1340 blessés, 83 disparus, plus de 1150 détenus, 13 journalistes emprisonnés et 9 médias suspendus. Alors les manifs à Quito, elles, rassemblaient quotidiennement quand même 40 000 à 50 000 personnes. Donc on voit que la répression n'a quand même pas découragé les indigènes pour autant et le reste des Équatoriens. Donc cette détermination, elle a obligé Moreno à inviter la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur à la table des négociations hier. Et il a finalement cédé, donc il a dit qu'il abandonnerait le décret libéralisant les prix du carburant. Donc un camouflet, hein, pour lui-même et pour le FMI. Et d'ailleurs, lui, pour sauver la face, hein, il a même été jusqu'à invoquer un complot de Correa, donc l'ancien président socialiste, entre guillemets, et de Maduro, pour le faire tomber, hein, donc le fameux complot communiste, souvent agité par les élites sud-américaines. Donc voilà, et désormais, bon, voilà, le mouvement semble en passe de se calmer. Hein, les indigènes ont dit qu'ils ont abandonné la rue, le mouvement indigène a appelé à abandonner la rue. Ils sont en train de nettoyer les rues de Quito. Et même s'il y a beaucoup d'incertitudes qui restent sur la suite et de possibles amnisties de manifestants et sur les autres mesures prévues par le plan du FMI, il semble déjà quand même que le mouvement indigène équatorien, qui par le passé a été responsable de la chute de 3 présidents quand même, a montré une nouvelle fois ce qu'est un vrai mouvement anti-impérialiste, populaire et déterminé.
Alors on enchaîne à l'international, toujours avec une résistance, mais à Hong Kong.
Oui, quelques nouvelles puisque le mouvement continue malgré un durcissement de la répression là-bas aussi. Ça continue. Dans la nuit de samedi à dimanche, des manifestants ont érigé sur la Roche du Lion, qui est une montagne qui surplombe Hong Kong, une statue qu'ils ont nommée Liberty Lady, représentant une manifestante portant casque de chantier, masque à gaz, lunettes de protection, un parapluie et le poing levé. C'est un symbole que le combat continue pour les manifestants. Mais il y a aussi, il y a encore bien sûr des manifestations où les manifestants sont de plus en plus actifs, puisqu'il semble que les cocktails Molotov s'y multiplient. C'est un gros pied de nez à la loi anti-masque imposée le 5 octobre par Carrie Lam, grâce à une loi héritée de l'époque coloniale sur la réglementation d'urgence qui permet aux chefs du gouvernement hongkongais, sans consultation, de prendre des mesures restreignant les libertés individuelles. C'est aussi de la même façon qu'elle a augmenté les pouvoirs du gouvernement sur la détention et a aussi touché à la liberté de réunion. À cette loi anti-masque, les manifestants avaient répliqué en appelant à porter justement les masques tout le temps, que ce soit pour faire ses courses, pour aller à la fac ou pour manifester, évidemment. Et cette loi n'est donc pas vraiment appliquée, contrairement à sa cousine française qui l'a bien été et qui a souvent servi de chef d'inculpation pour les Gilets jaunes. À Hong Kong, elle a même eu pour effet de faire redoubler l'ardeur des manifestants. Mais le bureau de l'éducation, qui est un peu le ministère de l'éducation à Hong Kong, a demandé aux chefs d'établissement de fournir des chiffres sur le nombre d'étudiants qui venaient à l'école masqués. Heureusement, apparemment, les chefs d'établissement semblent avoir l'intention de désobéir à cette directive. Et d'ailleurs, les directeurs et les enseignants sont les cibles de l'agence de presse chinoise Xinhua, qui est un organe du Parti communiste chinois. Vous savez certainement que deux personnes ont été touchées par balles réelles tirées par des policiers pendant des manifestations récemment. Le lycée du premier qui a été blessé le 1er octobre lui avait ouvertement exprimé son soutien et avait accusé les forces de l'ordre de violence excessive, ce qui n'est pas déraisonnable de qualifier de violence excessive de tirer à balles réelles sur un manifestant non armé. L'agence Xinhua interprète les événements différemment puisqu'elle considère qu'il s'agit d'un, et là je les cite, d'un manquement à leur devoir des enseignants que de n'avoir pas enseigné à leurs étudiants la nécessité de s'éloigner de la violence et de la haine afin d'éviter des blessures irréparables. En gros, fallait leur apprendre à ne pas aller manifester pour ne pas subir la violence policière.
Sympa. On va aller maintenant du côté de la Tunisie et des élections dont on a eu les résultats hier.
En Tunisie, on n'est plus dans la phase révolutionnaire à proprement dit, mais plutôt post-révolutionnaire qui soulève évidemment d'autres enjeux de récupération, de figement du mouvement révolutionnaire. Alors pour une petite chronologie, le premier tour des élections présidentielles en Tunisie a eu lieu le 15 septembre, là dernier. Il s'agit là du deuxième scrutin de ce type depuis le renversement du régime de Ben Ali en janvier 2011. Alors ce qu'il faut d'abord retenir, c'est une très forte abstention, hein, puisque seuls 45% des électeurs inscrits se sont déplacés dans les urnes. Et c'est un vote qu'on peut dire profondément anti-système, puisque en effet, les deux qualifiés pour le second tour sont d'une part le juriste Kais Saied, qui a récolté pour le premier tour un peu plus de 18% des voix, et de l'autre côté, le mania Nabil Karoui, qui a une chaîne de télévision nationale, qui a plus de 15% des suffrages, et qui était incarcéré pour évasion fiscale pendant plus de la moitié de la campagne, ça pose le décor. Bref, deux candidats qui n'appartiennent pas du tout au parti traditionnel. S'exprime ici un désaveu clair de la part des électeurs à l'égard des partis qui ont structuré donc la vie politique tunisienne depuis décembre 2010, date donc du début de la révolution. Ce désaveu peut s'expliquer par différents facteurs. D'abord, évidemment, par le contexte économique. La Tunisie dépend clairement aussi du FMI, encore lui. Le chômage est à plus de 15%, l'inflation proche de 7%, la corruption généralisée. Mais ce qui pose surtout problème à la population, c'est la guerre des clans, qui sont de véritables castes qui s'agglutinent au pouvoir pour contrôler l'économie du pays. Mais d'autre part, on peut aussi souligner la précarité de l'alliance politique qui a été formée depuis 2015, entre d'une part l'ancienne élite économique incarnée par le parti Nida Tounes, et d'autre part la nouvelle élite politique représentée par le parti Ennahda, qui défend donc un islam politique. En apparence, avec ce premier tour, on avait affaire à un rejet d'un consensus démocratique mou qui pourrait aller vers une réaffirmation d'une certaine forme de dissensus portée en tout cas par des intérêts de groupes sociaux antagonistes clairement affirmés qui, et ça c'était nouveau, renouvelaient le clivage d'un côté islamiste et de l'autre côté progressiste. Bref, les élections législatives pourtant de la semaine dernière ont consacré la victoire du parti islamiste Ennahda, dont 21 sièges ont été accordés aux salafistes dans le Parlement, ce qui est beaucoup, ce qui est une victoire dramatique à plus d'un titre, hein, puisqu'elle risque de balayer vraiment d'un revers de main tous les enjeux qui étaient quand même plutôt émancipateurs, qui étaient portés depuis la révolution, qui ont été aussi répandus au sein du débat public et qui parlaient d'égalité d'héritage, d'abolition de la peine de mort et surtout de dépénalisation de l'homosexualité. Dimanche dernier, 70% des voix au second tour se sont portées sur le candidat Kais Saied. Alors là, on a une vraie ambiguïté d'analyse en tout cas. Est-ce qu'il s'agit pour beaucoup surtout une partie de la jeunesse voit dans ce candidat la relance du processus révolutionnaire qui avait été un peu récupéré, et d'autres au contraire essayent de dire attention, attention, on a le retour d'un régime autoritaire qui peut être incarné par un seul homme. Alors qui est ce Kais Saied ? C'est un juriste, expert en droit constitutionnel, qu'on surnomme Robocop, pour dire. Il incarne pour beaucoup une intégrité morale, il n'a absolument aucun parti ou aucune structure qui le soutient politiquement. Sa première campagne électorale est dans l'imaginaire médiatique médiatique et politique du moment. Il incarne l'image d'un chef responsable, le prof de droit, figure d'un ordre moral aussi retrouvé ou en tout cas prometteur. C'est très paradoxal parce qu'il attire d'un côté les groupes révolutionnaires qui étaient proches de la mouvance de la gauche radicale, mais il attire aussi dans le même temps des groupes révolutionnaires qui sont de mouvances islamistes. Tout ça autour d'une rhétorique anti-oligarchique qui parfois frise le populisme. Une vraie ambiguïté donc. D'un côté, il a la caution révolutionnaire, hein, il prône clairement une nouvelle radicalité qui est portée surtout par une proposition qui est celle de la révocation des élus. D'ailleurs, il était déjà présent en 2011 dans les sit-ins historiques à la fois de El Massir et des deux moments de l'occupation de la place de la Casbah. Il était là. Il était contre le pouvoir transitoire en place et il s'exprimait déjà à l'époque, en 2011, en faveur d'une démocratie qui n'était pas représentative mais participative. Alors, effet de discours ou pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Il était connu des militants de gauche, de certains cercles révolutionnaires aussi, mais il ne s'est jamais revendiqué d'une idéologie particulière. C'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes, clairement, voient en lui celui qui va réaliser les promesses non tenues encore de la révolution. Et c'est pour ça qu'il a le soutien à la fois de la gauche sociale et de la gauche nationaliste. Mais d'un autre côté, on a dit qu'il a le soutien de la partie Ennahda, qui est le soutien d'une partie des islamistes. Donc bon, à voir pour la suite quelles logiques de composition vont être mises en œuvre et quelles prises de position sociétales vont être jouées par lui. Et surtout, comment l'extrême gauche va continuer à faire pression pour que le mouvement révolutionnaire justement ne se rigidifie pas dans un cycle réformiste et constitutionnel.
Alors après, l'insurrection qui vient, la crise qui vient.
Et oui, c'est un peu la panique du côté des marchés financiers. Alors on pourrait s'en taper, hein, vu que c'est un peu une économie de science-fiction. Mais le problème avec cette science-fiction-là, c'est qu'elle finit toujours par avoir un effet désastreux sur l'économie réelle. Et ce sont jamais ces mauvais réalisateurs qui doivent se taper le résultat. Donc là, on n'est pas loin d'un mauvais remake de la crise de 2008. Du coup, bon, bah, on peut quand même commencer à s'en inquiéter un petit peu. Alors revenons au point de départ. Depuis le 17 septembre, la Fed, c'est la banque centrale américaine, jette quotidiennement des milliards de dollars sur le marché du repos. Mais qu'est-ce que c'est le marché du repos, me direz-vous, hein ? Malheureusement, ce n'est pas le marché de la sieste. Non, le marché du repos, en gros, c'est les banques, les hedge funds, vous savez, tous ces acteurs de la finance qu'on adore, qui remettent sur le marché pour une durée très courte, hein, 24 heures, une nuit, des titres qu'elles possèdent afin de récupérer des liquidités. Elles s'engagent du coup à racheter ces titres très rapidement, je le disais en général 24 heures plus tard. C'est donc des prêts très peu risqués pour celui qui prête. Et ça permet à tout ce petit monde de faire mumuse avec de l'argent qui ne leur appartient pas en toute tranquillité. Parce que bon, c'est vrai que les banques n'aiment pas trop l'argent qui dort, hein, vu que ça ne rapporte rien. Donc elles investissent plus ou moins opportunément et elles ont besoin de s'échanger de l'argent comme ça dans un marché fort peu vertueux par ailleurs. Bref, en général, comme je le disais, elles remboursent très rapidement ces emprunts. C'est des emprunts qui sont à un taux très faible, autour de 2%. Sauf que là, mi-septembre, les taux se sont mis à grimper de manière tout à fait inquiétante, jusqu'à atteindre 10%. La Fed, donc toujours encline hein, à sauver les marchés, a donc décidé d'intervenir le 17 septembre en injectant 53 milliards de dollars. Oui, quand même. Donc tout ça pour faire baisser de nouveau le taux d'intérêt. Elle s'est substituée aux créanciers pour prêter elle-même de l'argent. Voilà, bon, pour l'autorégulation du marché, hein, tant vantée par les capitalistes, il faudra repasser. Donc, alors sur le coup, la Fed, elle a tenté un petit coup de Trafalgar, hein, genre non, mais enfin, tout va bien, c'est juste un peu le bordel parce que les entreprises américaines devaient payer leurs impôts le 15 septembre, du coup, il y a moins de liquidités qui circulaient. Bon, ils ont aussi dit que c'était à cause des attaques sur les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, hein, quitte à raconter n'importe quoi, on n'est pas un mytho près. Alors maintenant, ils ne peuvent plus trop se reposer sur ces arguments bidons, hein, puisque dès le soir du 17 septembre, le taux d'intérêt était toujours à 4% et que ça ne s'améliore pas franchement depuis. Et donc la Fed injecte entre 75 et 100 milliards de dollars chaque jour pour éviter la crise depuis le 17 septembre. On n'a pas tous les mêmes échelles hein, avec l'argent. Tu me diras, quand c'est pas le tien, tu peux bien le distribuer à tout va. Il y a quelques jours, la Fed a annoncé qu'elle comptait mettre 75 à 100 milliards de dollars chaque jour, au moins jusqu'au 4 novembre. Ça fait plaisir, hein, cette prolifération d'argent public, nous qui croyons qu'il n'y avait plus de sous. D'ailleurs, pour info, entre 2011 et 2017, la Banque Centrale Européenne a investi 4 000 milliards d'euros comme ça. C'est cool, hein, parce que du coup, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais jeter l'argent par les fenêtres, ça, on est hyper flexible. Alors, finalement, pourquoi tout ce bordel ? Alors, en vrai, hein, on peut garder nos mines interloquées parce que, comme souvent dans le processus des crises financières, on nous explique vraiment ce qui s'est passé 2-3 ans plus tard. Mmh. Alors, il y a différentes hypothèses. Hein, depuis la crise de 2008, c'est surtout les hedge funds qui dominent ce business parce que les banques sont devenues un peu frileuses. Hein, elles ont retenu la leçon. Mais il y a plusieurs hedge funds, qui ont fait faillite ces derniers temps, ce qui a rendu probablement les créanciers un peu suspicieux sur les capacités de remboursement. L'autre élément, c'est des liquidités, il y en a toujours, mais les capitaux sont souvent pas investis au bon endroit, en tout cas à des endroits qui rendraient les marchés sains. Ça c'est surtout pour faire le plus de profit possible, hein, quels que soient les risques pris par les investisseurs. Bon, vous voyez à peu près le principe. Ça pourrait être marrant hein, si c'est, enfin tellement c'est lunaire parce que les mecs ont quand même réussi à inventer des trucs incroyables tellement ça sert à rien. Mais je vais casser l'ambiance en rappelant que la crise en 2008 en France, hein, c'est une augmentation de 40% du chômage, c'est-à-dire 800 000 personnes qui perdent leur emploi, l'augmentation de la dette publique et donc des finances publiques au plus mal. Et donc tout ce que ça implique en termes de restriction des budgets et donc des services publics. C'est aussi l'augmentation des impôts, en même temps qu'un accès beaucoup plus difficile au crédit. Enfin bref, tout un tas de super bonnes nouvelles pour les exploiter. Alors on espère que les mecs à Wall Street s'amusent bien avec nos vies et aussi que tout ça un jour leur reviendra bien bien fort dans la gueule.
On enchaîne avec le national, il va falloir faire assez vite puisqu'on est bien à la bourre, donc on enchaîne avec les sociétés de vigilance. Qu'est-ce que c'est ?
La société de vigilance.
Là.
Alors depuis la tuerie qui a eu lieu à la préfecture le 3 octobre, la préfecture de police de Paris le 3 octobre, une espèce de paranoïa sécuritaire et raciste qu'on n'avait pas vu depuis les attentats de 2015 a saisi l'État et les médias. La menace d'une cinquième colonne islamiste en France, ayant jusqu'à infiltrer l'appareil d'État, serait bel et bien réelle. Alors, une interprétation qui fait fi de la complexité de l'affaire et qui montre bien comment les complotistes les plus pathologiques sont souvent chez les plus puissants. Désormais, donc, selon le gouvernement et ses relais dans les médias, est venu le temps pour tous et toutes en France de guetter les signaux faibles de la radicalisation dans son entourage, dont ce puits d'intelligence qu'est Christophe Castaner nous a donné la liste. Une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan, le port de la barbe, le fait de ne plus faire la bise, de ne pas accepter de faire équipe avec une femme, avoir une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle, etc. etc. Blanquet a même été jusqu'à dire qu'un garçon refusant de tenir la main d'une fille à l'école serait signalé. Alors depuis, on a eu le droit en boucle sur les chaînes d'info à la pédagogie des experts expliquant comment repérer son voisin islamiste et des débats surréalistes sur la taille des barbes ou autres conneries. Alors c'est la fameuse société de vigilance selon les mots d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'institution de la paranoïa et de la surveillance collective à tous les échelons de la société comme moyen de contrôler la population. Une paranoïa tout droit issue des notions et des concepts des pires doctrines sécuritaires américaines, hein, des théories appliquant le même principe que dans Minority Report. Non, on ne cherche plus à appréhender des délinquants, mais à prévoir les crimes et, si possible, arrêter leurs auteurs avant qu'ils ne passent à l'acte. Donc des logiques sécuritaires en plein essor aujourd'hui avec les big data, puisque la collecte d'infos infinies qu'elles permettent doit faciliter la détection des signaux faibles. Alors la réalité des signaux faibles en France, on la connaît déjà, hein. On y a été confronté en 2015 après les attentats du Bataclan. Les signaux faibles servaient en fait de base à la rédaction des fameuses notes blanches des renseignements, à l'appui desquelles ont été ordonnées perquisitions administratives et assignations à résidence. Alors les dérives, elles ont été terribles, hein. Plusieurs rapports ont détaillé comment de nombreuses personnes musulmanes sans aucun lien avec des organisations terroristes ont été perquisitionnées, assignées à résidence ou ont perdu leur emploi en raison de leur leur pratique religieuse ou de leur apparence. Alors, la société de vigilance, en fait, elle a deux visages. La suite, déjà, le premier visage, donc, c'est celui de la persécution systématisée des musulmans, dont on a eu un bon exemple ce week-end à Dijon. Hein, une femme voilée, accompagnatrice scolaire au Parlement régional, a été sommée de quitter le lieu par un député fasciste du Rassemblement national parce qu'elle portait le voile. Donc, une femme humiliée devant son fils qui a trouvé rien de mieux que... Enfin, qui a pleuré, quoi. Vraiment, de voir sa mère se faire humilier comme ça en public. Encore une infamie de plus dans notre chère République. Et le second visage de la société de vigilance, c'est celui du contrôle des populations via le numérique, en donnant à la justice les moyens d'enfermer des gens avant même qu'ils puissent agir, et l'accentuation d'une fascisation de l'État et de la société, que ce soit dans le contrôle des personnes ou dans la vindicte publique, la vindicte contre des boucs émissaires.
Allez, on enchaîne vite au National sur la semaine d'action d'Extinction Rébellion.
Alors après la manif du climat le 21 septembre, après aussi l'occupation temporaire du centre commercial d'Italie 2 le 5 octobre, Extinction Rébellion a décidé de s'installer lundi, place du Châtelet, en plein Paris. Alors bon, est-ce qu'il y a un pas de plus réalisé vers l'alliance entre mouvement social et mouvement écologiste ? C'est pas sûr. Du point de vue de l'organisation, il y a 6 points de blocage qui ont été installés. Le plus avancé était au bout du pont de change, où il y a même un mur anti-émeute qui a été construit dans la nuit par les flics pour éviter toute extension du blocage vers l'île de la Cité. Il y avait 3 AG principales, très longues, par jour, plus des AG secondaires à chaque point de blocage. Bref, plus des fonctions déléguées par l'association, des contacts police, des gardiens de la paix qui étaient censés assurer un consensus autour de la non-violence. Rapidement, mardi, rien de vraiment intéressant. Le débat s'est enlisé pour savoir si oui ou non il fallait laisser passer le cortège des flics funéraires en hommage à leurs collègues assassinés à la PREF. Ça a pris des heures, ça a monopolisé tout le débat. Bon, mercredi un peu plus intéressant, 2 actions ont été menées. Une première de désobéissance civile qui a été réalisée par l'occupation d'un McDo. L'opération n'a pas vraiment marché. Le blocage même d'un CA n'a duré que quelques minutes. Et ensuite, samedi, Extinction Rébellion a organisé ce qui devait être le point d'orgue de sa semaine internationale d'action, qui était l'occupation devant l'Assemblée nationale. Là aussi, c'est quand même un flop relatif. Tentative de blocage arrêtée. Les participants ont été nassés pendant plus de 10 heures sur le pont. Enfin bref, peut-être rapidement, on peut rappeler la stratégie d'Extinction Rébellion, et peut-être là aussi, on en voit les limites claires. D'abord, ils veulent massifier leur action pour atteindre 3,5% de la population. Bon. Un principe de non-violence qui est moral et dogmatique, et surtout un mode d'action hybride qui va alterner entre un volet d'action temporaire, type occupation, nuit debout, tout ça, et d'autre part la construction d'une structure à long terme type ONG. Bref, on voit bien que ce prisme moral de la condamnation de toutes les violences ne permet toujours pas de hiérarchiser la cause des violences, leur effet, et surtout leur intégration dans des rapports systémiques, des rapports de force, dans des intérêts de classe, des structures de domination et d'exploitation. Tant qu'ils ne remettront pas ça en cause, l'alliance objective aura du mal à se faire.
On enchaîne au local avec des informations sur le Petit Paumé.
Oui, ces tocards du Petit Paumé ont encore sévi. Hein. Alors, année après année, c'est en train de devenir un véritable marronnier, les gros étrons annuels des étudiants de l'EM Lyon. Et cette année, la palme est donc décernée aux commentaires à propos d'un bar de la Guillotière. Je cite... Alors que je fuis une bande de rebeux place Guillotière, je m'engouffre un peu par hasard à HO36. Bonne pioche, des jeunes blancs travaillent sur leur ordi tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse. Ah là là, l'humour potache, la provocation, c'est tellement drôle. Le studio est d'ailleurs en délire après cette bonne petite vanne. Bon alors, on va pas faire un commentaire de texte, hein, ça vaut vraiment pas le coup. Je rappelle quand même, parce que bon, je tiens beaucoup à ce quartier, que la place Guillotière n'existe pas. On est sur des bons gros teubés.
Des bons géographes.
Des bons géographes. Alors ce coup-ci, c'est pas trop passé. Hein. Les étudiants seront convoqués en conseil de discipline et ça fait une sacrée pub de merde au Petit Paumé et à l'EM Lyon, puisque les médias s'en sont allègrement saisis. On va pas les plaindre en réalité. Hein, le Petit Paumé est coutumier de ce genre de merde, apologie du viol, racisme, etc. La publication semble bien correspondre au profil des étudiants qui squattent les bancs de ce genre d'école bien pouaves. Je voulais quand même revenir sur quelques merdes déjà écrites par ces charmants étudiants les années précédentes. Alors en 2017, ils avaient par exemple proposé une petite planche fort instructive sur des positions sexuelles. Alors bien sûr, hein, toujours du point de vue d'hommes hétérosexuels, je cite quelques phrases. « C'est une dure journée pour moi, je décide de tout, plus vite, plus fort. Nos enfants vont marcher à quatre pattes jusqu'à leurs 5 ans. » Ou pour le triangle des Bermudes, « Après tout, elle n'a pas fait 10 ans de danse pour rien, c'est le moment de récolter les fruits de ce dur labeur. » Je vous évite la description du dessin. Voilà, donc ça c'est un peu les petites vannes habituelles des étudiants de l'EM Lyon. L'an dernier, il y a 2 ans, ils avaient aussi proposé un tour des lieux de prostitution lyonnais. Hein, je cite, donc rangé par ethnie. La prostitution se vit un lieu d'initiation pour les, je cite encore, puceaux, losers et mauvais coups. Et l'an dernier, c'était illustré par une citation fort à propos de Patrick Weber, qui a été empruntée ensuite par Anders Breivik, vous savez, hein, ce terroriste d'extrême droite qui a massacré 77 personnes en Norvège. Donc les étudiants de l'EM Lyon, hein,